Rebonjour à tous. Je vais prier pour préparer mon cœur aussi. Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence. Merci parce que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je prie que tu puisses nous couvrir maintenant de ton esprit, me permettre d'être fidèle à ta parole et que tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs. Que ton esprit rende cette parole efficace et tranchante dans nos cœurs pour que cela puisse nous changer, nous transformer, nous donner de réaliser, de contempler, d'aimer et d'adorer ton nom magnifique sur toute la terre. Amen. Nous venons devant ce psaume comme des personnes naturellement captivées par notre propre personne. Je m'explique. Si jamais on sortait une photo de groupe maintenant, quelle est la personne que vous chercheriez en premier ? Soi-même, j'ai vu les personnes dire « toi ». Et je regarde la photo de groupe, la première personne que je vais regarder, c'est moi. Et puis, je ne vais pas seulement me regarder moi, mais je vais regarder une certaine partie de mon anatomie. Généralement, ça va se fixer sur la partie supérieure de mon crâne, et puis peut-être sur la partie ventrale si le corps est exposé. Enfin, je vais peut-être regarder les défauts, quoi. Et puis après, les qualités. Bref, quelle est la première personne qu'on cherche sur une photo ? C'est soi-même. Et on est un peu captivé par nous-mêmes. Et c'est aussi très frappant quand je suis en vidéo-call avec Chloé. Elle m'a donné l'autorisation de diffuser cette information. Quand on s'appelle sur WhatsApp et qu'on est en train de parler, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Tout d'un coup, je la vois qui incline un peu la tête comme ça, et puis qui touche un peu les cheveux, et je sais qu'elle n'est plus en train de me regarder. Je sais qu'elle a appuyé sur le bouton et qu'elle est en train de se regarder elle. Et puis peut-être que ça vous arrive aussi quand vous êtes sur Zoom, de vous mettre en grand écran pour regarder un peu quelle tête vous avez sur Zoom. On est naturellement captivé par nous-mêmes. Soyons honnêtes. Quand on s'est levé ce matin et qu'on se lève tous les jours, pour qui est-ce qu'on vit ? Pour qui est-ce que tu vis ? Du soir au matin. Pour qui est-ce qu'on regarde le miroir le matin avant d'aller au travail et le miroir le soir avant de se coucher ? Pour qui est-ce que je prends soin de mon corps ? Pour qui est-ce que je fais de l'exercice ? Pour qui est-ce que je mange ? Pour qui est-ce que je prends mon petit déjeuner ? Pour qui ? Et c'est le syndrome de l'humanité. C'est le syndrome qui dit le soleil tourne autour de la Terre. C'est la Terre est au centre, je suis au centre. Est-ce que vous êtes aussi comme ça ? Est-ce que je suis parti loin ? Ou est-ce que nous aussi, quand on regarde nos vies, on se dit en réalité, la personne la plus importante dans mon histoire, ben, c'est moi, c'est mon histoire. Je suis le personnage principal de mon histoire. Sauf qu'en réalité, quand on lit ce psaume, le personnage principal, ce n'est pas nous. Et quand on centre tous les projecteurs sur nous-mêmes, c'est comme si on voulait remplacer le soleil du système solaire par une ampoule 45 watts. Imaginez un peu qu'on retire le soleil du système solaire et qu'on le remplace par une ampoule 45 watts. On peut imaginer la catastrophe que ce serait pour nous. Et au travers de ce texte, nous voyons qui est Dieu. Pas étonnant que les choses ne tournent pas rond quand on remplace le soleil par cette ampoule. Mais comment nous présentons-nous devant ce psaume ? Est-ce que nous nous présentons comme, encore une fois, moi, je suis le personnage principal de cette histoire ? Comment est-ce que nous nous présentons devant Dieu ce matin ? Comment est-ce que nous nous présentons devant Dieu chaque jour ? Je sais qu'on ne peut pas vraiment directement regarder le soleil, mais essayons de regarder à Dieu, au travers de ce psaume. Et peut-être que nous pourrons avoir une vision juste de qui nous sommes. Et peut-être que nous pourrons remettre les choses dans le bon ordre. Et peut-être que cela pourra résoudre le problème des hommes qui veulent remplacer le soleil par une ampoule 45 watts et se considérer le centre de l'histoire. Et j'aimerais vous montrer ce matin qu'un seul nom est magnifique sur toute la terre. C'est le thème de ce psaume, il commence par cela, il finit par cela. Un seul nom est magnifique sur toute la terre. Sept mots, sept pensées, quatre pour Dieu que nous allons regarder en premier et trois pour l'homme que nous allons regarder ensuite. Regardons premièrement à Dieu et ensuite regardons à l'homme. Premièrement, regardons à Dieu. son nom est magnifique sur toute la terre. Quel est le nom dont il est question au verset 1 et au verset 8? Yahweh. Yahweh. Quel est ce nom? C'est le nom que Dieu s'est donné lui-même quand il parlait avec Moïse sur la montagne, dans ce buisson ardent, et que Moïse lui a demandé, mais s'il demande, quel est ton nom? Qu'est-ce que je leur répondrai? Et que leur a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu, je suis celui qui suis. Yahweh, quatre lettres prononcées Yehovah, Yahweh. Il est celui qui est, qui n'a pas commencement, qui n'a pas de fin. Il est éternellement. Il est l'être éternel. Alors, j'ai parfois l'impression que je ne vais pas mourir. Je suis jeune, je suis beau, je suis fort, surtout dans les yeux de Chloé. J'ai l'impression que je vivrai éternellement. Mais je sais aussi que je suis destiné à finir dans une boîte avec une date de début et une date de fin. Et la période est assez courte. Mais Yahweh est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Je suis celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Yahweh est éternel. Éternel est Yahweh. On ne peut pas nous comparer à Yahweh. Il est éternel. Deuxièmement, son nom, Yahweh, est magnifique sur toute la terre. Le verset 1 dit, Éternel, notre Seigneur, que ton nom, Yahweh, est magnifique sur toute la terre. Yahweh est éternel et il est créateur. La création est comme le reflet de la magnificence, de la beauté de Yahweh, de ce nom sur toute la terre. Essayez un instant d'imaginer l'endroit le plus lointain que vous pouvez, le plus inaccessible. Imaginez-le. Vous en avez un en tête? L'Éternel y est. Le nom de Yahweh y est. Et il est magnifique. Est-ce que ce sont les tréfonds de l'océan où le sable est allongé depuis des années, des millénaires, calme, où aucun homme n'a jamais été, où la lumière du soleil ne parvient pas? Le nom de Yahweh y est magnifique. Est-ce que c'est les sommets les plus enneigés, les plus hauts, où nous ne pouvons pas parvenir et même pas respirer? Le nom de l'Éternel Yahweh y est magnifique. Les forêts tréfonds, les plus profondes, l'abysse d'un volcan en éruption, l'autre bout de l'univers et de l'espace, à des années-lumière d'ici. Yahweh, son nom y est magnifique. L'Éternel. L'être éternel, son nom y est magnifique. Quand on voit un tableau d'un grand artiste, que ce soit Van Gogh ou Michel-Ange ou votre grand artiste préféré, on pourrait reconnaître l'auteur même sans voir la signature. Pourquoi ? La qualité de la peinture atteste du génie de son artiste. La grandeur de la création est de la même manière. La signature invisible du nom Yahweh. Il a tout créé par sa main. L'être éternel, l'être créateur, la création loue son nom. Il est souverain. Verset 3. Tu domines le ciel. Ta majesté domine le ciel. Les Juifs considéraient le ciel comme cette voûte qui séparait le monde terrestre du monde céleste, le monde charnel du monde spirituel. Cet espace, cette voûte où vivaient les oiseaux et tout le reste. Quand il est dit que la majesté de Dieu domine le ciel, c'est-à-dire qu'il domine sur tout l'univers, qu'il règne, qu'il dirige, qu'il contrôle chaque chose. Comme le dit Jésus en Matthieu 6, pas un seul oiseau n'est pas nourri par Dieu. C'est lui qui les nourrit, chacun. Aucun des cheveux de nos têtes ne tombe sans son accord, sans qu'il le fasse lui-même tomber. Sa majesté domine le ciel et tout ce qui se passe en dessous, de l'autre bout de l'univers jusqu'à ici, dans cette salle, où le nom de l'Éternel, l'être éternel est magnifique et où tout est soumis à sa domination. Quatrièmement, cet être est absolu, cet être est glorieux, cet être est tellement élevé, cet être est tellement différent de ce que nous connaissons, de ce que nous sommes, mais il est tout ça dans la faiblesse. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour répondre à tes ennemis, à l'homme avide de vengeance. Cette partie semble surgir de nulle part. On est en train de parler de l'être le plus suprême de tout l'univers et en un instant, on se retrouve avec les petits-enfants. On passe de la puissance absolue à la faiblesse absolue, la fébrilité absolue. On a des tout petits bébés dans cette salle, on sait la fragilité d'un jeune enfant. Quoi de plus vulnérable, de plus fragile qu'un bébé qui a besoin d'être allaité pour survivre? Il ne peut pas survivre tout seul, rien faire. Le contraste est saisissant. Et ce petit bébé est confronté à des ennemis. Les ennemis de qui? Les ennemis de Dieu. Alors attendez un instant, comment est-ce que Dieu peut avoir des ennemis? Il est Dieu. Il pourrait simplement dire, n'existe plus, et plus d'ennemis. Mais non. La majesté du nom de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Il fonde sa gloire, littéralement dans le texte, il fonde sa force par la bouche des nouveau-nés, par la bouche des nourrissons, par la bouche des enfants qui allaitent. Il choisit cet être à la puissance absolue de fonder sa force et sa gloire. Comment? Par la faiblesse absolue d'un nouveau-né. Voici Dieu. Voici Dieu, le centre absolu de l'univers. Les bébés terrassent les adversaires de Dieu par leur balbutiement. Voilà ce qu'il fait, par la faiblesse. Et alors, qu'est-ce que l'homme par rapport à ça? Après avoir vu Dieu, mais qu'est-ce que nous sommes? Ça remet les pendules à l'heure pour nous, n'est-ce pas, qui avons tendance à nous regarder en premier sur la photo et à vivre en nous considérant comme le héros de l'histoire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est le cri du psalmiste. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune, les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. À la fin du petit manuel écrit par Thomas Dick, qui était un révérend du début du 19e siècle, il écrit de manière assez admirable cette réflexion, et j'aimerais vous la lire, c'est la fin de la citation. Une étude du système solaire a tendance à modérer l'orgueil et à promouvoir l'humilité. L'orgueil est l'une des caractéristiques distinctives de l'homme faible, chétif. Et cet orgueil a été la cause principale de toutes les disputes, guerres, dévastations, systèmes d'esclavage et projets ambitieux qui ont désolé et démoralisé notre monde de péché. Et il n'y a peut-être pas d'être rationnel dans l'univers chez qui l'orgueil paraîtrait plus inconvenant, totalement délirant, inconvenant pour nous que chez l'homme, compte tenu de la situation dans laquelle il est placé. Quelle est notre situation ? Il est exposé à de nombreuses dégradations et calamités, à la rage des tempêtes et des orages, aux dévastations des tremblements de terre et des volcans, à la fureur des tourbillons et aux flots tumultueux de l'océan, aux ravages de l'épée, à la famine et à la peste, à de nombreuses maladies. Et enfin, il doit sombrer dans la tombe et son corps doit devenir le compagnon des vers de terre. Pourtant, dans de telles circonstances, l'homme, ce chétif vers de terre, dont les connaissances sont si limitées et dont les folies sont si nombreuses et si flagrantes, à l'effronterie de se pavaner avec toute la fierté de l'orgueil et de se gargariser d'être un homme. L'astronomie nous montre à quel point l'homme est un être insignifiant, un simple atome dans l'immensité de la création. Voilà à peu près la réflexion du psalmiste, notre réflexion. Qui est l'homme éternel, Yahweh, pour que tu prennes soin de lui, pour que tu te souviennes de moi. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que nous sommes pour qu'il prenne soin de lui? Qu'est-ce qu'un Dieu si grand pourrait bien avoir à faire avec nous? Comme dit Ésaïe, nous sommes comme un peu de poussière sur une balance. Ésaïe 40, verset 15. Mais l'homme est aussi porteur d'un nom magnifique sur toute la terre. Nous sommes aussi faibles que des enfants, mais parce que Dieu se manifeste dans la faiblesse, l'humanité en tant que telle est également un moyen pour Dieu de montrer la magnificence, la beauté de son nom sur toute la création. Il prend soin de l'humanité. Alors maintenant, avoir vu Dieu, regardons à l'homme, et c'est ce que fait David, l'homme qui a au final, dans sa faiblesse immense, celle d'un enfant ou d'un ver de terre, la grâce de recevoir l'affection de Dieu, l'attention de Dieu. Qui est l'homme? Voici qui est l'homme. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Le premier homme, Adam, à qui David fait référence à ce moment-là, il cite la Genèse, il nous rappelle ce moment incroyable, au moment où Dieu a créé l'homme et il lui a donné la domination sur sa création. Et il fait appel aux mêmes catégories qui sont citées dans Genèse 1:28, où il disait « Dominer sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Autrement dit, l'homme est représentant de la gloire de Dieu. L'humanité en Adam. Nous sommes les rois de la terre. Ce Dieu qui domine la voûte céleste, qui domine tout l'univers, choisit un homme pour dominer la terre. Et c'est bien là la comparaison entre eux. C'est bien comme cela que nous ressemblons au Dieu. Lui domine le ciel, l'univers, et nous dominons sa création. Voilà en quoi nous ressemblons à lui. Voilà en quoi il prend soin de nous. Voilà en quoi il se souvient de nous, comme pour répondre à la question du psalmiste. Nous dominons la terre tout comme lui domine le ciel. Mais nous savons que ce roi, Adam, l'humanité en Adam, a été le pire intendant. Et tout comme lui, nous avons cette tentation de faire la même chose, d'être des intendants qui voulons nous mettre à la place de Dieu. Comme Ève dans Genèse 3, quand elle a entendu le serpent qui lui a dit « Vous ne mourrez absolument pas, vous serez comme Dieu. » Nous voulons être comme Dieu. Comme les hommes à Babel. Qu'est-ce qu'ont dit les hommes à Babel? Allons, faisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Nous ne voulons pas que le nom de l'Éternel remplisse la terre. Nous voulons nous faire notre propre nom. Être comme Dieu. Voilà l'intendance, l'homme en Adam. La mission de roi et d'intendant, de diffuser la gloire de Dieu en étant ses reflets sur toute la terre. Mission perdue, mission avortée, l'échec est assuré. Adam, le roi de l'univers, quelle est la conséquence? Adam, qui était le roi de l'univers, le roi de la terre, selon Dieu et sous Dieu, finit rongé par les vers. Rongé par les vers, la mort est la conséquence de cette intendance désastreuse. Mais tout ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre et qu'il prend soin des hommes, de l'homme Jésus. Dieu envoie Jésus, un nouvel Adam, un nouvel homme, l'homme. Parce qu'il aime Adam, il envoie un nouvel Adam. Parce qu'il nous aime, il envoie un nouvel Adam. Et c'est exactement comme cela que cite l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il prend ce texte, il prend le psaume 8 dans Hébreux 2, versets 5 à 8, et il dit, voilà, c'est Jésus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, que le, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Le terme Elohim, qui est traduit par le psaume 8 dans, par Dieu, est traduit dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, par ange, les êtres spirituels. Il peut être traduit de la même manière. Cet homme qui, à qui Dieu a abaissé un instant sous les anges, sous lui, sous les anges, c'est Jésus. Et comme Dieu aime le faire au travers de la bouche des enfants, au travers des hommes, il fonde sa gloire au travers de la faiblesse. Un petit enfant né il y a 2000 ans en arrière, d'une vierge, par la puissance du Saint-Esprit qui l'a couverte. L'être créateur lui-même, je suis Yahweh, la parole par qui tout a été créé, incarné, abaissé pour un peu de temps, qui s'incarne dans la faiblesse totale de l'humanité, en dessous des anges. Et une trentaine d'années plus tard, il s'assit sur un ânon, le petit d'une ânesse, l'humilité par excellence. Il entre dans Jérusalem sous le cri du peuple, « Hosanna, Hosanna au fils de David !» Il entre dans le temple, il chasse les vendeurs de pigeons, il purifie le temple. « Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs, » leur dit-il. Il guérit les sourds et les malades, et les enfants crient « Hosanna, Hosanna au fils de David !» Les pharisiens sont choqués, ils disent à Jésus « Mais entends-tu ce qu'ils disent ?» Et que répond Jésus ? « N'avez-vous pas lu ? N'avez-vous pas lu ce qu'il est écrit ? De la bouche des enfants et des nouveau-nés, tu as fondé ta gloire. » 1 millier d'années après la rédaction de ce psaume, Jésus cite cette vérité. La bouche des enfants fait taire les ennemis de Dieu. Après cette réponse, on ne voit plus les pharisiens, ils ne répondent plus. La scène est terminée. La bouche des enfants qui louent le Seigneur fait taire les ennemis de Dieu. Et une semaine plus tard, le deuxième Adam, Jésus-Christ, réussit là où le premier a totalement échoué, sur la croix, dans sa chair, dans la faiblesse. Il souffre pour tout le salut de l'humanité, de l'homme en Adam qui a échoué. Et il ressuscite 3 jours après. Après 3 jours dans le tombeau, il ressuscite. Tout a été mis sous ses pieds. Voilà comment est cité ce psaume, encore une fois, par Paul, dans 2 Éphésiens, dans 1 Corinthiens 15, dans Hébreux 2. Tout a été mis sous ses pieds. Après avoir été abaissé un instant avec nous au milieu des anges, il ressuscite. Tout est mis sous ses pieds. Il est assis à la droite de Dieu, du trône céleste. Tout a été mis sous ses pieds. Et dans 1 Corinthiens 15, il leur dit, la mort a été soumise aussi. La mort qui condamnait l'humanité, Adam, a été soumise au Seigneur. Nous serons ressuscités dans un corps. Et dans Éphésiens, il leur dit, toutes les dominations, toutes les puissances ont été soumises. Il n'y a rien qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Jésus a été élevé et tout a été mis sous ses pieds. Yahweh, Jésus, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre et de son peuple. Nous sommes en Jésus, le peuple. Comment commence et finit ce psaume ? Éternel, notre Seigneur. Notre Seigneur. Un Seigneur personnel. Cette expression apparaît très rarement dans l'Ancien Testament. Beaucoup plus dans le Nouveau. Éternel, notre Seigneur. La puissance, la magnificence du nom de Dieu dans la création, sous l'homme, parfaitement en Jésus, est acquise pour nous parce que nous sommes son peuple. Qu'est-ce que cela change pour nous ? Ce psaume, le psaume 8, arrive après le psaume 3 à 7, qui sont des psaumes de supplication, de souffrance, et c'est le psaume d'adoration qui, de la part de créatures qui souffrent sur la terre, regardons au Seigneur et disons « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifié sur toute la terre. Est-ce que l'Éternel est notre Seigneur personnel? Est-ce que notre vie en tant que peuple de Dieu reflète parfaitement? Est-ce que notre vie reflète la gloire de Dieu dans l'univers? La mission que Adam a échouée et que Christ a accomplie, nous pouvons la faire maintenant en Christ, par lui, parce que tout a été soumis, non pas par notre force, mais par sa force. La question, c'est maintenant, moi, après le baptême, est-ce que la personne la plus importante dans ma vie, c'est toujours moi? Ou est-ce que, non, c'est bon, j'ai juste trouvé un Dieu super sympa qui va pouvoir m'apporter beaucoup de bénédictions? Est-ce que l'Éternel est mon Seigneur? On n'a plus vraiment la notion de ce qu'est un Seigneur aujourd'hui. On pourrait, je m'étonnerais que certains d'entre vous disent que notre président est votre Seigneur. Notre président n'est pas notre Seigneur. Et même si nous sommes soumis à un patron un certain nombre d'heures par semaine, dans la limite d'un contrat, il n'est pas notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire d'être le Seigneur et d'être soumis à un Seigneur? De lui appartenir du soir au matin et pendant la nuit, de dépendre de son autorité, d'être sous sa protection, de chaque aspect, chaque domaine de notre vie, pour ce royaume dont il est le Seigneur. Voilà ce que c'est être un Seigneur. Dans notre culture, on ne connaît pas ça, mais est-ce que vous avez un Seigneur? Est-ce que nous avons un Seigneur? Et est-ce que, comme David, nous louons l'Éternel? Comment est-ce que ma journée est organisée? Mes activités, mon temps, mon énergie, mon argent? Est-ce que tout cela est vécu comme si j'avais un Seigneur? Ce Seigneur ou pas? Ou est-ce que je suis mon propre Seigneur et je fais du Seigneur de l'univers mon serviteur? Pour rejoindre le chant de ce psaume, pour rejoindre David et être sujet de ce Seigneur, suivons le double exemple de ce psaume. Pratiquement, comment est-ce que nous pourrions suivre cet exemple et être les serviteurs? Et j'aimerais finir par ces deux applications pratiques. Premièrement, gardons un cœur d'enfant. Comment est-ce que nous pouvons magnifier le nom du Seigneur sur la terre? Gardons un cœur d'enfant. Est-ce que nous prenons nos décisions comme un enfant plat de confiance ou comme un pharisien qui raisonne et qui utilise toute son intelligence? Les pharisiens n'acceptaient pas Jésus parce qu'ils manquaient de confiance. Mais les enfants ont cette assurance, cette confiance simple, toute simple, la foi simple. Dieu l'a dit, je le crois. Si Dieu me demande de tout quitter pour le suivre, est-ce que j'ai la confiance simple pour le faire, de tout quitter pour m'engager dans une chose ou dans une autre? Est-ce que j'ai la confiance simple de le faire? Est-ce que je garde un cœur d'enfant? Paul dira aux Corinthiens, j'ai peur que vous vous détourniez de la simplicité, comme Ève a été détournée par le mensonge, dans 2 Corinthiens 11. Est-ce que nous nous détournons de la simplicité d'un enfant qui croit simplement ce que dit Dieu? Ou est-ce que dans ce qu'il nous demande de faire, d'accomplir, d'engager, nous croyons simplement et nous suivons? Ou raisonnons, doutons, croyons avec notre tête et remettons en question tout ce qu'il est dit. N'écoutons pas ce mensonge. Avoir un cœur d'enfant. Et deuxièmement, soyons de bons intendants. Si nous sommes des reflets de la gloire de Dieu et qu'en Christ nous pouvons vraiment refléter cette gloire, magnificence, ce reflet de Dieu que nous sommes, ce qu'il nous donne, c'est notre responsabilité de le gérer et d'utiliser notre tête non pas pour questionner, mais pour être la meilleure version de l'intendant que nous pouvons être, être quelque part la meilleure version de nous-mêmes pour refléter au mieux le reflet de Dieu en nous. C'est la responsabilité de gérer au mieux notre argent, notre temps, notre énergie pour sa gloire. Est-ce que je cherche à me faire un nom ou à représenter le nom magnifique de Dieu autour de moi? Comment est-ce que je peux utiliser ma tête, mes dons, mes capacités pour refléter au mieux mon Seigneur et son nom? Non pas pour douter de ce qu'il me demande de faire, mais pour représenter au mieux Comment est-ce que je peux utiliser toutes mes forces pour me décentrer de moi-même, ne pas chercher en premier moi sur la photo, mais aimer mon prochain comme moi-même. Ah oui, on s'aime, mais aimer mon prochain comme moi-même. Et premièrement dans l'Église. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Soyons de bons intendants. Alors je vous en supplie, gardons un cœur d'enfant. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous demande de faire aujourd'hui dans cette étape de vos vies. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Je ne sais pas quel est l'engagement peut-être qu'il vous demande de faire ou d'arrêter. Peut-être qu'il vous demande de quitter quelque chose. Si Dieu vous conduit dans une direction ou dans une autre, prenons part à cette création qui représente le nom de Dieu dans la magnificence, de sa magnificence, et soyons simples comme des enfants. Croyons qu'il sera fidèle pour pouvoir. Croyons. Et utilisons toutes nos compétences, notre intelligence, nos capacités pour le servir au mieux et aimer notre prochain et en premier nos frères et sœurs. Qu'il puisse vraiment être notre Seigneur. Qu'on puisse dire comme David au psaume 16, Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Qu'on puisse dire comme Paul aux Philippiens, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Qu'il puisse être notre Seigneur. Gardons un cœur d'enfant. Je conclus. Un seul nom est magnifique sur toute la terre. Yahweh, éternel, créateur, sa majesté remplit la terre. Souverain, sa majesté domine le ciel. Dans la faiblesse, par la bouche des enfants. Et dans la faiblesse de l'homme. Pas en Adam qui a échoué, mais de l'homme Jésus. Et de son peuple. Sa majesté remplit toute la terre. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une nouvelle création est à venir. Le monde sera totalement et parfaitement soumis au pied de Dieu, au pied de Jésus. Il va revenir. Notre Seigneur va revenir. Tout sera parfaitement sous ses pieds. La mission sera parfaitement accomplie. Alors viens, Seigneur Jésus, viens. Je termine par la prière. Éternel, notre Seigneur, nous voulons dire en tant qu'Église que ton nom est magnifique sur toute la terre, dans cette salle, dans ta création, dans ton éternité, dans ta souveraineté, dans la faiblesse, dans notre faiblesse, que nous puissions refléter ta gloire. Père, je prie vraiment que tu nous donnes en tant qu'Église, en tant qu'individu également, de te reconnaître comme notre Seigneur et que notre vie d'intendance, de simple confiance puisse refléter parfaitement la magnificence, la beauté de ton nom, du Dieu de l'univers qui prend soin de ses enfants. Seigneur, je t'en supplie, transforme-nous, donne-nous des yeux pour voir et pour nous centrer sur toi. Adorer ton nom, éternel, à tout jamais. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen.